Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Et que rien n'empêche Dieu d'établir une communion fraternelle entre les peuples. Cette fête de la Pâque est une fête qui concerne les nations. Cette fête de Soukhot, pardon, c'est une fête qui concerne les nations, qui concerne la joie aussi du peuple d'Israël. On va en parler, c'est vrai. Mais c'est une fête qui concerne aussi des nations, les gens de tout peuple, de toute race. Et la mission d'Israël était d'amener toutes ces nations à la connaissance de son Dieu, le Dieu Elohim, ou Adonai Elohim Tzvaot, le Seigneur l'Éternel des armées. Et ce matin, on est dans une prémisse de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En tout cas, je tiens à remercier mon frère Franck, avec qui nous collaborons depuis quelques années maintenant. Et nous travaillons dans une main d'association, même si son association s'appelle Main dans la main, la nôtre s'appelant Avat Sion, l'amour de Sion. Eh bien, on est dans la main dans la main pour l'amour de Sion, et pour l'amour d'Israël, pour l'amour de ce peuple, mais pour l'amour aussi des nations. Parce qu'on vous aime. Et ce matin, il n'y a aucune barrière entre nous. Et nous ne voulons pas reconstruire un mur, au contraire, nous voulons le renverser. Et si nous prenons la Sainte-Seine, on doit prendre la Sainte-Seine avec un cœur pur, un cœur libre, un cœur affranchi, un cœur balayé, nettoyé et orné. Si j'ai un problème contre mon frère ou ma sœur parce qu'il est d'origine tunisienne, marocaine ou algérienne ou voyageur, je ne peux pas prendre la Sainte-Seine ce matin. Alors j'ai demandé la permission de parler avant. Je l'ai obtenue et je crois qu'on va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Avant de développer quoi que ce soit, on va prier. On va demander à Dieu sa grâce sur cette matinée, sur ce moment. Et nous allons vraiment lui réclamer sa présence, la présence de son esprit. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver sous cette tente. Seigneur, c'est ce lieu que tu as choisi pour que nous puissions nous retrouver. Dans ta grâce toute puissante, sois béni. Parce que Seigneur, tu nous as ouvert la voie, tu nous as montré le chemin. Et comme le dit ta parole, tu n'as pas hésité comme une proie arrachée d'être morphologiquement Dieu, d'être Dieu toi-même. Tu as pris la forme d'un serviteur. Tu es devenu semblable à nous et tu es venu nous apporter la révélation de l'accomplissement de la loi à travers ton ministère, ton comportement, tes attitudes, ton amour. Et ce matin, Seigneur, la voix du ciel nous est ouverte, la bénédiction descend d'en haut, le ciel n'est plus d'airain, le ciel est ouvert et tu veux visiter hommes et femmes de toute race, de toute nation. Seigneur, que ce matin nous soyons unis par un seul esprit, ton esprit, au nom de Yeshua, au nom de Jésus notre Sauveur et notre Goël, notre Rédempteur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, Deutéronome 16, ne cherchez pas, je fais la lecture moi-même. Verset 13 nous dit: tu célébreras la fête des cabanes, la fête des tabernacles pendant 7 jours, la fête des soukottes, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Gloire à Dieu. C'est la fête qui nous rappelle que Dieu nous bénit dans tout ce que nous entreprenons, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Israël était béni. Et Israël, à cette fête de Soukhot, devait tourner les regards en direction de ces greniers que Dieu avait remplis et devait se réjouir. C'est la fête de la réjouissance. C'est la fête de la joie. Soukhot, c'est la fête de la joie. Soukhot, c'est la fête des cabanes. Et en Israël, eh bien, nous avons sur nos terrasses, sur nos balcons, dans nos jardins, ce que l'on appelle des soukhot. Soukhot, on va donner la définition de ce que ça peut représenter. Je pourrais traduire le mot soukhot par cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de demeure, de retraite, et je dirais même de tanière pour les animaux, puisque Jacob lui-même, lorsqu'il est arrivé dans un certain lieu du livre de la Genèse, il va construire des cabanes pour ses troupeaux, et ces mêmes cabanes s'appellent, se sont appelées des soukhot. Donc c'est un lieu de tanière, et c'est aussi le nom de tabernacle. Tabernacle. Ici on est, et on a la couleur, semble-t-il approximative, du tabernacle de Dieu. Ce tabernacle de Dieu qui était construit, monté et démonté par les Lévites lorsque le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert. Et j'aimerais dire ce matin que cette tente, ce tabernacle, ce Mishkan, eh bien c'est la tente de la convocation, Ohel Moed. C'est la tente de la convocation. En fait, on retrouve cette expression par l'expression Matzar Bait, qui nous rappelle le fait que nous sommes comme assignés à résidence. Ça veut dire que le peuple de Dieu est assigné à résidence pour venir dans la maison de Dieu. Nous sommes assignés. En Israël, c'est un terme juridique. Et si nous sommes assignés, que nous n'avons pas le choix de nous retrouver dans la communion fraternelle, de nous retrouver dans la maison de Dieu, eh bien Dieu lui-même ne s'est pas fait un traitement de faveur pour lui. Dieu est venu habiter dans un tabernacle. Dieu est venu habiter dans une tente. Il est venu habiter dans le Mishkan, dans le désert, et il se révélait par sa présence la nuit dans une colonne de feu et la journée dans une nuée qui nous rappelait que 24 heures sur 24, le Dieu que nous connaissons n'avait pas de traitement de faveur. Si son peuple habitait sous des cabanes, eh bien lui-même habitait dans une tente. Si son peuple habitait sous des tentes, lui, le grand Dieu du ciel et de la terre, n'a pas hésité comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, dans ma prière je l'ai dit, d'être morphologiquement Dieu, mais il s'est déjà abaissé en ce que lui, le grand Dieu d'Israël, le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, il est venu habiter sous une tente, il est venu habiter dans le tabernacle, et dans le tabernacle il se rencontrait avec son peuple, avec ses enfants. C'est ce que l'on appelle la tente d'assignation. Nous sommes assignés à résidence. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas connaître une foi de Robinson Crusoe. Je suis dans mon coin. Je vis ma foi. Je connais le Seigneur. Mais je le prie dans ma chambre. Je n'ai pas besoin d'aller dans une communauté. Je n'ai pas besoin de me retrouver avec les uns, de me retrouver avec les autres. Mais la volonté de Dieu, c'est que hommes et femmes de tout peuple, de toute race, de toute nation, puissent trouver un point de rencontre à proximité de son domicile pour se retrouver avec des enfants de Dieu qui ont les mêmes conceptions spirituelles, qui ont les mêmes regards tournés vers celui qui a changé notre vie, afin que dans la communion fraternelle, le nom de l'Éternel des armées, le nom de Yeshua Mashiach, le nom de notre Dieu soit élevé, glorifié, célébré et exalté. Alléluia. Nous sommes assignés à résidence. Nous n'avons pas le choix. La fête de Soukhot, selon quelques définitions, nous rappelle aussi que c'est une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme. Ce sont les régalim, régel. Je marche à pied. Aniba Regel, je suis à pied. Et ce sont les trois fêtes de l'Éternel qui me donnent l'occasion de monter à pied en direction de Jérusalem. Soukhot n'est pas une simple fête, c'est une fête qui a son importance. Et dans les rites et coutumes du peuple d'Israël, au milieu duquel j'ai grandi, et du judaïsme, on a ce que l'on appelle les Arba Minim, les quatre espèces de plantes. Nous avons la branche de saule. Nous avons la myrte, nous avons le palmier, l'étrog. Et selon la littérature rabbinique, chaque juif doit saisir ces quatre espèces en main pendant la fête de Soukhot. Et pendant la lecture des hallels, pendant la lecture des psaumes, eh bien, il doit agiter ce que l'on appelle le loulav. C'est vrai. Mais je voudrais sûrement nous ramener sur l'importance de la fête de Soukhot, qui est la cabane érigée pour la fête, où l'on mange pendant les 8 jours. Non seulement on mange, mais on dort sous la cabane. Voilà, on a construit notre souka sur notre terrasse et mes propres enfants, eh bien, sont sous la souka. Et nous mangeons sous la souka, mais la nuit, ils mettent des matelas, ils mettent quelques lampes avec eux, et puis ils dorment à la belle étoile. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment se construit plus ou moins la cabane et quels sont les tenants et les aboutissants qui font que nous construisons cette cabane pendant cette fête. Mais j'aimerais dire surtout que la cabane de Soukhot que nous construisons pendant la fête est aussi synonyme de protection. De protection. Et oui, dans le désert, il fallait être protégé. Protégé de quoi ? Je peux être protégé, bien sûr, du soleil. Je peux être protégé de certaines bêtes que nous rencontrons dans le désert et qui sont dangereuses. Et la Bible dit aussi concernant Soukhot que Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël, sa tente est à Jérusalem et sa demeure à Sion. Vayehi beshalem suko ou meonato betzion. Voilà que sa tente est à Salem, Shalem, entier, les Shalem, Shalom, Yerushalayim, on peut aller loin, hein. Et sa demeure est à Sion. Voilà que Dieu a construit sa tente à Jérusalem. Jérusalem, la ville sur laquelle tous les regards sont braqués, sur laquelle tous les regards sont dirigés. Une ville qui a un enjeu pour nous, un enjeu spirituel, certains diront un enjeu politique. Le diable connaît les plans de Dieu et il sait que Dieu rassemblera les hommes et les femmes de toute nation, de toute race, et il les rassemblera sur les Champs-Élysées. Non ? C'est pas sur les Champs-Élysées ? Il peut le faire aussi, hein ? Mais où rassemblera-t-il les nations ? Il rassemblera les nations ? Alléluia et Adonai Kol Goïm. Venez louer le Seigneur, vous les nations. Goïm, c'est pas péjoratif. C'est les nations. C'est ethné en grec. Il n'y a pas d'insulte quand on dit tu es goï. Hein? Il n'y a pas d'insulte du tout. Mais homme de toute race, de toute langue, de toute nation, eh bien, et femmes ainsi que femmes, nous nous retrouverons à Jérusalem pour louer et adorer le Seigneur. La souka est synonyme de protection. Mais en hébreu, on a des synonymes qui nous rappellent la protection. Chassout, qui est se protéger aux cornes de l'autel dans le temple. Qui est aussi chassout, l'immunité diplomatique. Quand quelqu'un est ambassadeur, il a une immunité. On ne peut pas ouvrir sa valise. On ne peut pas le fouiller. On ne peut pas entrer dans son véhicule. Et quand on est dans une voiture diplomatique, au lieu de rouler à 100 km/h en Israël, on roule à 130 km/h. Un jour, j'ai pris la voiture d'un ambassadeur d'Afrique et j'étais pressé, je devais descendre de Jérusalem à Tel Aviv et avec sa voiture, comme c'était un Shabbat, malheureusement j'ai dû brûler Shabbat à cause d'une affaire d'urgence, et bien là j'ai pris sa voiture et j'étais même à 160. Immunité diplomatique, personne ne pouvait m'arrêter, personne ne pouvait me verbaliser, personne ne pouvait même me prendre au radar, j'avais des plaques blanches CD, corps diplomatique, j'avais sur moi une immunité. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes au bénéfice de cette immunité. Nous sommes gardés, protégés. Personne ne peut mettre la main sur nous sans que Dieu ne l'ait permis. Nous sommes sous la protection de Dieu. Dans le prochain journal de Havat Sion Magazine, dans le premier journal d'Havat Sion Magazine qui va paraître, nous avons là une sœur croyante en Yeshua qui était dans le bus 19 qui a explosé. Nous avons des photos et nous étions pratiquement sur place au moment de l'explosion. Et cette sœur, elle était au milieu de plusieurs personnes autour d'elle. Toutes ces personnes autour d'elle sont mortes. C'était l'endroit où la bombe a explosé. Elle est sortie couverte de sang, les oreilles qui sifflaient. Mais quand on a commencé à l'examiner, on s'est rendu compte qu'elle n'avait rien du tout. Elle était couverte par le sang de l'agneau. Elle était couverte par son Dieu. Elle avait du sang sur elle, c'est vrai. Elle avait des oreilles qui sifflaient. Mais elle a été gardée miraculeusement. Parce que nous bénéficions d'une immunité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes aussi, comme le dit l'hébreu, « aftara ».
protégés par les promesses de Dieu. Nous sommes protégés par sa présence, nous sommes protégés par son sang, nous sommes protégés parce que nous sommes ses enfants, mais nous sommes protégés aussi par ses promesses. Dieu nous a fait des promesses et Israël est sous la protection de Dieu parce que Dieu a fait des promesses à Abraham. Et si aujourd'hui ce petit pays, grand comme le département de la Bretagne, subsiste face à des millions et des millions d'opposants, c'est parce que ce pays et ce peuple a été marqué par le sceau de Dieu. Et que personne ne pourra anéantir ce peuple, parce que anéantir Israël, c'est anéantir le plan de Dieu. Anéantir l'Église, celle non pas qui en a le nom, mais celle qui en a le fruit, c'est aussi anéantir le plan de Dieu. Personne ne peut mettre la main sur toi sans que Dieu ne l'ait permis. Mais personne ne peut toucher à Israël, parce qu'inelo yanun velo ishan, shomer Israël. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple Israël. La troisième expression de protection, c'est l'expression shmira qui veut dire veiller. Dieu veille sur nous. Et toi qui fais partie de l'olivier franc ou de la greffe sur l'olivier franc, eh bien sache que Dieu veille sur toi. La nuit tu ne dors pas, tu es enfant de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu loues le Seigneur, tu médites le livre que Dieu t'a donné. Et pourtant la nuit tu n'arrives pas à dormir, la nuit tu es saisi par des angoisses, et là il y a comme une main sur toi qui t'accuse, qui te montre du doigt. J'aimerais te dire ce matin que le diable c'est l'accusateur des frères, mais Dieu veille sur toi et le diable n'a aucune prise sur ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être un peuple de victorieux, nous ne pouvons pas vivre dans la défaite. Tu vis peut-être une défaite passagère, tu vas perdre une bataille mais tu ne peux pas perdre la guerre. Dieu veut que tu sois vainqueur. Et nous sommes vainqueurs parce que lui a été vainqueur. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple de vainqueurs. Alléluia. Une autre expression qui nous rappelle la protection de Dieu, c'est l'expression Agana. Agana, c'est la défense. C'est Dieu qui nous défend. Vous savez, en Israël, j'habite dans une région qui est frontalière avec les territoires dits autonomes. J'habite juste à la frontière et en face de moi, j'ai un lieu qui s'appelle Bethel, et là je vois souvent passer des chars. Et la première réaction que j'ai lorsque je vois passer des chars avec ma famille qui sont vraiment des officiers engagés, des gens haut gradés dans l'armée israélienne, je me dis, Israël, en quoi et en qui tu peux mettre ta confiance? C'est bien que nous ayons un des chars les plus perfectionnés au monde, c'est bien que nous ayons une des armées les mieux organisées dans le monde, mais qui a aussi ses failles. Mais le plus important, c'est de savoir que nous avons dans le ciel celui qui prend soin de nous. Et lorsque je vois passer les chars, je me dis, eh bien, Israël, bitrou ba Adonai, mets ta sécurité, mets ton assurance en ton Dieu. Et je sais que ma sécurité, mon assurance, en tant que serviteur de Dieu là-bas sur le terrain, ayant même l'occasion d'aller dans des lieux difficiles comme Bethléem ou Beth-Jala, aller secourir mes frères arabes croyants en Jésus qui souffrent, je l'ai fait, nous l'avons fait avec quelques-uns à Jérusalem, au risque de notre vie, eh bien nous savons que notre protection ne dépend pas des circonstances du moment dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, mais notre protection dépend de celui qui nous protège. Et aujourd'hui, je crois que nous devons tourner nos regards et le corps de Yeshua, le corps de Christ, ainsi qu'Israël doit tourner et porter ses regards vers le ciel. Alléluia. La cabane, la souka, dans le sens de refuge, d'abri, de demeure, de retraite, de tanière, de tabernacle, vient étymologiquement de l'expression srar. Srar, c'est ce qui fait de l'ombre. Et on a besoin d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'elle. Nous voulons nous mettre à l'abri du Tout-Puissant. Et j'aimerais dire que la souka n'a rien de magique. Vous allez pouvoir aller dans la souka, la petite souka qui a été construite à l'entrée de cette manifestation, et vous allez vous y mettre et même y dormir si vous voulez, et pour autant vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu. La souka n'a rien de magique. La souka, c'est un symbole qui nous rappelle qu'autrefois nous étions dans le désert. Et nous y reviendrons tout à l'heure sur ce point. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que srar, c'est ce qui fait de l'ombre, vient de sahar et socher, qui ont pour sens la protection, dans la pensée aussi de couverture, de l'isror, protégé. Pourquoi la couverture? Nous sommes juste après le Yom HaKippourim, le jour des expiations, où nous avons les verbes qui reviennent et l'expression « lechaper velisloar »« lechaper vesolear » « couvrir et pardonner ». Le Yom HaKippourim est un jour où chaque enfant d'Israël va se mettre en jeûne dans sa journée pour voir et expérimenter dans sa vie l'expiation de ses péchés. Mais comment pouvons-nous expier nos péchés alors que nous n'avons plus de Mishkan? Nous n'avons plus de tabernacle. Comment pouvons-nous expier nos péchés si le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit? Comment pouvons-nous expier nos péchés si nous n'avons plus de sacrifice pour expier nos péchés? Et je comprends pourquoi le tabernacle n'est plus là, pourquoi le temple n'est plus là. C'est parce que quelqu'un est venu, et ce quelqu'un qui est venu, il a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, et il a traversé le lieu très saint, couvert non pas par le sang des boucs et des agneaux, mais couvert par son propre sang. Et celui qui a traversé ce lieu, eh bien c'est Yeshua, Jésus de Nazareth, qui a versé son sang pour nous à Golgotha. Nous sommes dans le désert. Vous étiez dans le désert. J'étais dans le désert. Et dans ce désert de la vie, j'avais besoin d'une protection. Quels étaient les dangers au désert? Prends garde que ton cœur ne s'enfle, dit Dieu dans le Deutéronome, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants. Serpents brûlants. Serpents brûlants. Sraphim. Serpents brûlants. Sraphim. Sraphim, séraphim. Dans le livre des Nombres, il est question des enfants d'Israël qui ont désobéi à Dieu et qui étaient piqués par des serpents brûlants, des sraphim, des séraphins, peut-être des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa chute et qui ont pris une apparence de serpent, puissance de ténèbres, qui venaient, séraphim, sraphim, piquer les enfants d'Israël. Et seuls ceux qui regardaient au serpent d'airain, qui est une préfiguration, selon l'évangile de Jean, de la personne de Yeshua, eh bien, seuls ceux qui regardaient au serpent étaient épargnés et pouvaient continuer de vivre. Nous sommes dans le désert. Et dans ce désert de la vie dans lequel nous sommes dans une guerre spirituelle. Israël est dans une guerre spirituelle. L'Église est dans une guerre spirituelle. Nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas lutté contre les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes libres, les assemblées de Dieu, les adventistes, la mission Tzigane. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les démons, les puissances de ténèbres. Et ce combat, nous pourrons le remporter que dans la mesure où nous serons unis ensemble. Alléluia. Nous limitons l'action de l'ennemi. Nous limitons le royaume des ténèbres. Et en vivant avec une assemblée africaine, j'ai compris ce que ça signifiait, que le combat spirituel, que la guerre contre les principautés. Dans le monde africain avec lequel j'ai évolué pendant des années et avec lequel je continue d'évoluer puisque nous avons 3 assemblées messianiques mais une assemblée africaine, je peux vous dire ce que ça veut dire que la sorcellerie, je peux vous dire ce que ça veut dire que les augures, que les gens qui trafiquent, que les gens qui sont capables de sortir de leur corps. Nous avons vécu dans notre communauté à Tel Aviv bien une opposition qui était une opposition démoniaque parce qu'à l'intérieur de la communauté, on avait 2 sorciers qui trafiquaient contre nous. Et suite à des paroles de connaissance prononcées par ma propre bouche, sans savoir qu'ils étaient là, sans savoir qu'on avait des espions de l'ennemi, eh bien ces 2 personnes sont, suite à la prophétie qui a été donnée concernant un avertissement sur la mort s'ils continuaient à pratiquer leur travail, eh bien, ces 2 personnes sont mortes coup sur coup. Et ensuite, on a senti une action du Saint-Esprit descendre sur la communauté. Nous avons changé de local et nous avons connu une croissance extraordinaire. Nous avons des gens infiltrés au milieu de nous. Nous avons des puissances infiltrées. Nous avons des agents 007, des gens qui viennent au milieu de nous pour empêcher l'œuvre de Dieu de se construire, pour empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Mais nous pouvons remporter la victoire que si nous, peuple de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit et que Dieu nous donne le discernement de l'Esprit pour savoir quelle est la mesure de notre combat, quelle est la direction de notre combat, où nous devons combattre, contre qui nous devons combattre. Mais ce matin, je réclame au peuple de Dieu l'unité du corps. Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, alléluia. Qui est déjà entré dans une souka? Levez la main. Qui n'est jamais entré dans une souka? Levez la main. Mensonge. Mensonge. Tesukeni bebeten imi. Tesukeni bebeten imi. Tu m'as abrité dans le ventre de ma mère. Souka. Dans le ventre de ta mère, tu étais dans une souka. Tu t'en rappelles plus, hein? Qui s'en rappelle? Moi non plus. Je m'en rappelle plus. Mais ça devait être bien, hein? Parce que les problèmes ont commencé au moment où je suis sorti. D'abord, j'ai senti deux mains me taper dans le dos pour me faire pleurer, là. Hein? Et puis après, on a commencé à me trafiquer, m'emmailloter, me mettre des choses insupportables. Hein? C'était hier, vendredi, jour pour jour, il y a 40 ans. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, tu m'as abrité dans le ventre de ma mère. Déjà dans le ventre de ma mère, j'étais à l'abri. Alléluia. Dès le sein de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Et je t'ai établi prophète des nations. Ne vous prenez pas pour Jérémie ce matin. Mais nous avons tous ensemble reçu une révélation de la part du même Dieu que Jérémie. Et dès le sein de notre mère, Dieu nous connaissait et il nous avait établi. Notre nom s'est inscrit dans le livre de vie. Dieu avait un plan pour nous. Dieu avait une révélation pour nous. Dieu avait une direction pour nous. Dieu a une direction pour nous. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un projet pour nous. Dieu a de bonnes chances pour nous. Dieu a vraiment de grandes chances pour chacun d'entre nous. Mais il faut reconnaître qu'il nous a établis. Il me connaît, il m'appelle par mon nom, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Le nombre des cheveux de ta tête sont comptés, il en sait exactement le nombre. Et ce matin, son seul désir, c'est de te visiter, c'est de te bénir, c'est de se manifester en toi. Et c'est d'accomplir en toi son plan, alléluia. Parce que la consécration en hébreu, ça veut dire aussi être achevé. Qui veut être achevé ce matin? Méfiez-vous, on va être attaqué, on va se faire tirer dessus, hein. Il y a des hélicoptères dans le ciel, des barrières partout et des agents qui tournent. Hein. Non, nous, on veut être achevés spirituellement. Parce que comme vous me voyez ici, même si j'étais dans la souka de ma mère, il y a 40 ans, eh bien, je ne suis pas encore terminé. Hein. Je ne dirais pas qu'il me manque un jour à chaque semaine, mais je ne suis pas encore achevé. Le Seigneur doit encore achever des choses en moi. Alléluia. Il doit me rendre un peu plus sympathique. Hein? Il doit me rendre un peu plus amour à l'égard de mes frères et sœurs, alléluia. Et il doit me rendre un peu plus patient. Nous ne sommes pas complètement achevés, mais Dieu veut achever son œuvre en nous ce matin. Et nous voulons nous sanctifier, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, alléluia. Srar, c'est aussi synonyme d'abri. En hébreu, c'est seter. L'abri, c'est seter. En anglais, c'est shelter, puisque nous, on a un abri pour les femmes de la rue qui sont abandonnées. Vous entendez? Je vous l'avais dit qu'on était... On est surveillés. Non, l'abri, c'est... Le shelter, c'est... Srar, c'est aussi synonyme d'abri, de shelter, de protection. Et à Tel Aviv, on a une maison qui accueille les femmes dans la rue. Et la municipalité de Tel Aviv, qui connaît nos convictions spirituelles, nous amène des femmes dans la rue, de la rue, pour nous les amener dans cette maison pour qu'on puisse faire un travail spirituel avec elles. Le monde n'a pas de solution. Le monde n'a pas de solution. Le monde essaie toutes les solutions. Le monde ne trouve pas de solution. Le monde n'a pas de solution pour le péché. Le monde n'a pas de solution pour tout ce qui est du psyché, du mental. Le monde n'a pas de solution pour le sida. Le monde n'a pas de solution pour certains cancers. Et nous savons que celui qui a le pouvoir de manifester sa gloire et sa puissance, c'est le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Et les gens du monde nous amènent dans nos lieux où nous travaillons des gens qui sont finalement condamnés à mort, quelque part, par la société. Mais le Seigneur que nous connaissons, c'est le réparateur des brèches. Le Seigneur que nous connaissons, c'est celui qui est capable de guérir. Dans une des réunions, un frère est venu sur le devant, il avait un cancer, il était condamné, plus rien à faire pour lui. Humainement, plus rien à faire pour lui. Et à la fin de la réunion, alors que vraiment c'était un grand rassemblement, on était un peu débordés, mais ce frère est venu, m'a dit, voilà, je suis dans une situation terrible, j'ai un cancer, et il est irrémédiable, mon avenir à moi c'est la mort, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et j'ai prié pour lui au nom de Jésus. Et quelques semaines après, son propre pasteur était chez moi en Israël, en visite chez nous. Le téléphone a sonné et c'était le frère qui voulait même nous faxer les résultats de ses examens. Dieu l'avait complètement délivré de son cancer incurable. Alléluia. Srar, synonyme d'abri. La Bible dit « Tu couvres ma tête au jour du combat ». Psaume 140, c'est vrai? Il est écrit « Tu couvres ma tête au jour du combat ». Non, ce n'est pas vraiment la traduction qu'on pourrait donner. « Sakota » les rochis beyom nashek. Tu mets ma tête à couvert dans le jour du combat. Et c'est encore la notion de Sukkot qui revient. Sakota, c'est la notion de Sukkot, c'est la même racine. Voilà que Dieu nous parle de nous mettre à couvert. Alléluia. On a besoin de se mettre à couvert. Il y a des gens qui sortent sans prier le matin. C'est dangereux. Nous sommes dans un monde dangereux. Moi, je ne vous parle pas des terroristes là. Je ne vous parle pas des prises d'otages là. Mais je vous parle des traits enflammés du malin. Je vous parle de la puissance des ténèbres, de la puissance de l'ennemi, des flèches que le diable peut envoyer lorsque dans la cuirasse de l'enfant de Dieu, il y a une faille, il y a une brèche. Nous devons nous mettre à couvert, alléluia. Et comment je peux me mettre à couvert dans une relation personnelle avec le Dieu d'Israël, avec le Tout-Puissant? Seigneur, je recommande mon sort entre tes mains. Je mets en toi ma confiance, parce que toi, tu vas agir, alléluia. Et avant même de franchir le seuil de la porte de ma maison, je me remets entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur, dirige-la, conduis-moi là où tu veux que je sois. Mets ma tête à couvert, parce que tous les jours, nous sommes dans le combat. Ne rêvez pas, nous sommes tous les jours dans le combat. Nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et nous voulons remporter la guerre, nous voulons remporter la victoire. Mais pour remporter la victoire, il faut se mettre à couvert et sous le sang précieux de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Srar est aussi synonyme de couverture. La parochet, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est le rideau aussi devant l'armoire, des rouleaux à la synagogue que l'on appelle la parochet. Et Dieu dit, « Sochachim beknefehem al akaporet » couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Voilà que nous avons deux anges qui couvraient de leurs ailes le propitiatoire. Alléluia. La protection des anges. Les deux anges qui couvrent la caporette qui est... La caporette, c'est le Roger. Le couvercle de l'arche de l'Alliance, à l'intérieur de laquelle il y avait. Le livre du prophète Moroni. Non, pardon. Les tables de la loi. Jésus, la parole. Le bâton d'Aaron qui avait coupé de son tronc, Yeshua, la résurrection et la vie. Ensuite, la manne, le vase, tupperware, le vase en or, à l'intérieur duquel il y avait la manne, Yeshua, le pain de vie. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans le lieu très saint, il prenait le sang du sacrifice et il faisait une libation sur le couvercle au jour du Yom HaKippourim, au jour des expiations, et le pardon des péchés du peuple était opéré. propitiatoire, kaporet, lechaper, ça vient du mot couvrir, du verbe couvrir. Kfar, nachum. Kfar, avec moi, kfar, nachum. Kaper, naom. Hein? Kfar, nachum. Village de nachum. Plus exactement, couverture de consolation. Yeshua, c'est la couverture de consolation. C'est pourquoi il aimait aller à Capernaum, à Kfar Nahum, parce qu'il est la couverture de consolation. Et les gens venaient à lui en foule pour recevoir la consolation, pour être couverts d'une consolation. Et ce matin, il y a des gens au milieu de nous qui ont besoin d'être consolés. Je suis sûr que dans ce lieu, il y a déjà un couple qui a besoin de la consolation de Dieu. Mais Saint Jésus est la couverture de consolation. Tu as besoin de consolation ce matin. Qui a besoin de consolation ce matin? Eh bien, reçois la consolation du Seigneur. C'est Jésus Yeshua qui couvre et qui t'apporte sa consolation parce qu'il est le consolateur. Alléluia. Nous avons, par le propitiatoire et les ailes des anges qui couvrent, la protection des anges, vous ne la voyez pas. Mais un jour, un frère m'a téléphoné, il m'a dit, ce matin, j'ai reçu que tu étais en danger. Et j'ai pris au sérieux cette parole parce que je sais que ce frère, c'est un vrai prophète de Dieu. Ce n'est pas un charlatan. Hein. Vous savez, il y a des gens qui vous prophétisent toutes sortes de choses. Et après, ça fait du mal dans le cœur de ceux qui ont reçu la prophétie parce qu'ils ne sont pas appelés à ce qui a été donné. On reconnaît une prophétie de Dieu lorsqu'elle vient de Dieu, lorsqu'elle s'accomplit, on est d'accord. Et ce frère m'avertit, me dit, attention, tu es en danger. Et au moment où il me téléphone pour me dire que je suis en danger, j'étais dans mon véhicule et ma femme était à la maison et elle a eu comme un nuage noir sur elle, dans son cœur une angoisse, et elle s'est mise à prier pour moi. Et alors que j'étais sur l'autoroute qui me conduisait de Tel Aviv à Ashdod, tout à coup une femme est sortie je ne sais où, elle a foncé sur mon véhicule. Et quand elle a foncé sur mon véhicule, là, j'ai vu une ombre sur mon tableau de bord et je me suis retourné, j'ai vu une voiture qui arrivait comme un bolide sur moi. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai envoyé des coups de volant et au moment où j'envoie un coup de volant sur la gauche, et j'entends des grands klaxons, une grande sirène, c'est un gros tracteur américain, vous savez, un camion américain, chez nous on a comme des gros tracteurs qui me venaient dessus du côté gauche. Et là, j'ai envoyé du côté droit, j'ai fermé les yeux et j'ai crié le nom de Yeshua et je me suis retrouvé dans un endroit à l'arrêt. Ma voiture n'avait même pas une égratignure. Le camion avait enfoncé une voiture. La voiture de la femme avait fait des embardées, s'était écrasée contre un mur. C'était vraiment une scène un peu apocalyptique, mais Dieu était là et il prenait soin de moi. Alléluia. On a besoin de vivre de telles expériences. Et on doit prendre garde à la parole prophétique. Donc on a vu déjà la soukha dans le sens de protection. Mais ce matin, j'aimerais aussi parler de la soukha, la cabane, dans le sens du souvenir. De la vie au désert, loin du confort. Lieu de la révélation, alléluia. Qui est dans le désert ce matin? Qui est dans le désert? N'aie pas honte. Ah, des mains se lèvent, il y a des gens qui sont francs là. Hein. Il faut être franc entre nous, on est la famille de Dieu là. Aujourd'hui, tu es au désert, demain c'est moi. Tu seras là, t'es moi dans le Negev. Tu seras en train de te faire bronzer sur les belles plages de la mer Rouge. Puis moi, je serai dans le désert du Negev en train de tirer la langue, là. Hein? Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Et on connaît des périodes dans nos vies qui sont des périodes de désert. Et le désert en hébreu, c'est les messianiques de l'Alliance francophone, là. C'est ah, le Negev Midbar. Alors, on a pris la concordance, hein. Bon, et dans la concordance, il est écrit Midbar, Midiber. Qui parle? La concordance, c'est moi ce matin, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit moi qui parle ce matin. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Midiber, dans ton désert, tu es vulnérable. Parce que dans le désert, tu peux soit écouter la voix de l'ennemi, soit écouter la voix de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu est conduit au désert, il est dans une certaine vulnérabilité. Et aujourd'hui, la force pour chacun d'entre nous, c'est de réaliser que le mot épreuve, qui pourrait aussi être synonyme de désert, est aussi le mot tentation. C'est le même mot dans le grec. Je suis dans la tentation du désert. Et dans la tentation du désert, En tant que pasteur du corps messianique en Israël, on se retrouve dans le désert avec tous les pasteurs israéliens. On ne mange pas et on prie. Et moi, ils m'ont jeté dans un coin du désert, là, pendant 4 ou 5 heures. Il faisait chaud, j'avais ma casquette. J'avais juste une petite bouteille d'eau, je priais. Et puis, il y a toutes sortes de pensées qui me passaient par la tête. Il n'y avait plus un bruit. Plus un bruit, on était jeté au désert. Et quand on est dans le désert, on est comme dans une certaine vulnérabilité. Il y a deux solutions. Ou j'écoute la voix de Dieu, ou j'écoute la voix de l'ennemi. Nous sommes, comme chacun d'entre nous, confrontés au même combat que Yeshua a vécu dans sa vie pendant 40 jours. Il a été conduit au désert, et dans le désert, le diable est venu lui parler. Il y a des gens qui pensent que dans le désert, seulement le Seigneur va leur parler. Mais dans le désert, dans l'épreuve, dans la difficulté, le diable va venir te dire, mais regarde, où est ton Dieu? Que fait-il? Tu es seul. Que fait ton Dieu? Où est ton Dieu? A-t-il une solution pour toi maintenant? Comment tu vas payer ton loyer? Comment peut-être tu vas récupérer tes enfants? Parce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a peut-être perdu la garde de ses enfants et qui se bat pour la récupérer. Comment tu vas faire? Tu n'as plus d'argent pour te nourrir. Tu n'as plus de solution. Humainement parlant, tu es dépassé. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Midiber, qui parle? C'est toi, Satan, arrière de moi. Je ne veux pas entendre ta voix, mais je veux entendre la voix de Dieu. Et dans le désert, dans un murmure doux et léger, Dieu se met à parler à ton cœur. La cabane, c'est aussi le lieu du souvenir. Chaque jour après le sacrifice du matin, un Cohen de Babel-Oued, je ne sais, Dieu le sait, mon frère David Cohen, qui est pasteur à Marseille de l'Assemblée messianique, lève-toi. C'est David Cohen, ça veut dire David le prêtre. Cohen, c'est prêtre, Kohanim, et il est de Babel-Oued. Alléluia! Donc, un Cohen, un prêtre, un vase d'or à la main descendait suivi de la foule à la source de Shiloah, de Siloé, qui veut dire l'Ishloah, envoyé, Shaliah, apôtre, envoyé. Et là, il y puisait de l'eau qu'il portait au parvis du temple, et les autres sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et des cymbales, et au milieu des acclamations de la multitude, le peuple chantait Ushaftem marim betsason mimarane ha-Yeshua Ushaftem marim betsason mimarane ha-Yeshua. Vous avez entendu la prophétie ce matin? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Peuple de Dieu, dans le désert, tu as la source. Peuple de Dieu, dans l'aridité de ta vie dans laquelle tu te retrouves ce matin peut-être, il existe une source. Elle est difficile à trouver. Parce que je monte de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, hein. Je fais tout ça aussi. Hein. Donc je monte de Tel Aviv à Jérusalem pour rentrer chez moi, je passe par un lieu, et derrière ce lieu par lequel on passe, ce n'est pas la route normale, en plein désert de Judée, on a une source qui sort. Et l'eau, elle est douce. Elle a un goût particulier, tous les Israéliens connaissent ce lieu, arrivent avec des gros conteneurs pour remplir de l'eau pour la semaine, etc. Tout le monde connaît cette source, et tout le monde va boire à cette source. Mais personne... Pratiquement personne, hormis 5 ou 7 000 personnes en Israël, ne connaissent la source qui désaltère la seule, celle qui jaillit de son sein, dans Jean chapitre 7, celle qui sort du cœur de Yeshua Mashiach, du cœur de Dieu. Alors le sacrificateur montait sur l'autel des holocaustes, dans le temple qui est sur le... L'autel des holocaustes, il est sur le... Sur et dans le Roger, dans le quoi? Dans le parvis. Heureusement que j'ai Ben Zaken avec moi hein, ce matin, hein, pour me rafraîchir la mémoire. Hein. Il est dans le parvis, l'autel des sacrifices, dans le parvis, qui était l'objet le plus haut dans le temple et dans le Mishkan, dans le tabernacle. n'est pas l'arche de l'Alliance qui était le plus élevé, et étant dans le lieu très saint, mais c'était l'autel avec les cornes sur laquelle on attachait l'animal. Et je crois ce matin qu'en tant que messianique, je peux dire que ce qui est le plus élevé dans la maison de Dieu, c'est la croix de Yeshua Mashiach. Non pas la croix des croisés, non pas la croix des inquisiteurs, non pas la croix de ceux qui ont voulu nous faire porter la mort de Yeshua, et je conclurai avec ça tout à l'heure, mais la croix qui a servi à ce que le juif Yeshua Mashiach, le fils de Dieu, Ben Elohim et Ben Adam, soit venu mourir sur cette croix. Lui le juste, lui le véritable, lui le fils d'Israël, lui qui aimait son peuple et qui est encore aimé de son peuple et qui était aimé de son peuple au moment de son ministère. C'était les conducteurs religieux, les politiciens qui ne l'aimaient pas. Mais le peuple aimait Yeshua. Eh bien, c'est cette croix, non pas l'objet, parce qu'il n'y a pas de croix ici. Et dans nos communautés en Israël, il n'y a pas de croix sur les murs, parce que la croix est un instrument de torture. Mais celui qui est élevé au milieu de nous ce matin, c'est celui qui est monté sur la croix. C'est pas pareil. Je veux élever celui qui est monté sur la croix. Nous voulons élever Yeshua à Mashiach. Nous voulons l'élever. Ne te culpabilise pas ce matin. Et peut-être que tu pensais comme ceux qui montraient du doigt ce peuple parce que l'on appelle la théologie de remplacement, de substitution, etc. et qui accusait le peuple juif d'être déicide. Mais le peuple juif n'est pas déicide. C'est le peuple de Dieu. Et à cause de cette erreur peut-être qu'ils ont commise de ne pas avoir reconnu le Messie, eh bien ça a permis à des milliers d'être dans la joie ce matin. Alléluia! Et ils resteront dans l'endurcissement jusqu'à ce que tous les païens soient entrés dans la bénédiction de Dieu. Alléluia! En versant du côté de l'Occident l'eau contenue dans le vase d'or, qui est pour moi le symbole pour l'Occident de la révélation de Yeshua et de Dieu par l'action du Saint-Esprit, puisqu'ils étaient étonnés de voir aussi que le Saint-Esprit était répandu sur les païens, l'apôtre Pierre lui-même en premier, et en répandant du côté de l'Orient une coupe de vin symbole du sang de Yeshua qui a coulé en Orient, Dieu s'est révélé par son sacrifice et par son sang à la croix en Orient, et il s'est révélé dans le monde des païens, dans les nations, par l'action puissante du Saint-Esprit, alléluia, mais l'effusion du Saint-Esprit a commencé tout de même à Jérusalem, et elle s'est propagée dans le monde entier. Cette symbolique se pratiquait pour nous rappeler l'eau qui jaillissait du rocher. Exode 17. Et Yeshua, c'est ce rocher dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 4, qui suivait le peuple. Ce rocher qui suivait le peuple, c'était Yeshua. Le rocher dur. Le rocher dur. C'est ce rocher qui a été frappé, duquel a jailli de l'eau, pour permettre aux enfants d'Israël d'être désaltérés dans le désert. La fête de Soukhot, c'est la fête du souvenir du peuple d'Israël qui était des semi-nomades dans le désert et qui avait besoin d'être désaltérés. Et le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui désaltère. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui pourvoit. Alléluia! C'est le Dieu qui est comme pour nous une source dans le désert. Ce matin, tu as besoin d'être désaltéré. Tu es dans l'épreuve. Le désert, l'épreuve, la soif. Le chiffre 40, chiffre de l'épreuve. Moïse, 40 ans dans le désert. Israël, 40 ans dans le désert. Yeshua, 40 jours dans le désert. Midiber, qui parle? Qui parle pour toi ce matin dans le désert de ta vie? Et le prophète Hoshéa, Osée, nous dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Il parle d'Israël, alléluia. Moi je ne suis pas idolâtre de mon peuple, j'aime mon peuple. J'aime mon peuple. Être aimé un peuple n'est pas être idolâtre. Il y a des gens qui sont tellement idolâtres d'Israël qu'ils pensent qu'il ne faut pas leur apporter le message de la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont juifs, ils sont sauvés automatiquement. Non. Moi j'aime ce peuple. Ma famille a donné sa vie pour Israël. Et d'autres membres de ma famille, un des derniers soldats qui est mort dans un char, habitant Mevaseret Sion, c'est un cousin proche à moi. Il a sauté dans un char, il est mort dans un char. Ma famille a donné sa vie pour Israël, mais je ne suis pas ce matin idolâtre d'Israël, j'aime Israël. Et si j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Si j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si j'aime quelqu'un? Qu'est-ce que je fais? Je prie pour lui? Je l'aime, je le visite aussi, non? Je le visite, Mais quand j'aime quelqu'un, je veux que son salut. Je veux son salut. Je ne veux pas faire de la pré-évangélisation avec Israël. Mais nous voulons leur annoncer le message qui est le leur, ce livre qui leur appartient. Parce que Israël, c'est le saint dépositaire des oracles de Dieu. La première alliance comme la seconde alliance est l'héritage de ce peuple. La bonne nouvelle du royaume de Dieu a été écrite par des juifs et pour des juifs. C'est pourquoi quand on voit des croyants en Yeshua ou des chrétiens qui ont la haine contre Israël, ils ont la haine contre leur Dieu. Hein. Parce que si tu es antisémite et si tu es anti-juif ce matin, tu es greffé sur un arbre juif, tu loues et adores un juif et tu lis un livre écrit par des juifs. Et celui qui te parle est juif. Kasher, les Pessars et les Méadrines, 100%, de père et de mère. Mais si je suis kasher, c'est parce que Yeshua m'a sanctifié, hein. Il m'a purifié. Hein. Parce qu'avant de le connaître, j'étais pas kasher. Hein. Loin s'en faut. C'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Est-ce que c'est vrai? C'est ça qui est écrit dans le Osée chapitre 2 verset 16? Vérifiez. Qui a vérifié? Qui est dans Osée chapitre 2 verset 16? Lève ta main. Lis ce qui est écrit, mon frère. Fort.
C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur.
Eh bien, je dis que c'est pas vrai ce qui est écrit, moi. Mensonge. C'est pas la bonne traduction. C'est pourquoi, voici, je veux la séduire et la conduire au désert. Il s'adresse à Israël. La reine iné anochi, mefateya, veolachtia, amidbar. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. J'aime mon peuple et je ne suis pas idolâtre de mon peuple parce que mon peuple est dans le péché. Et Dieu parle par la bouche de Hoshéa, le prophète, qui signifie Dieu qui délivre, parce que la femme de Osée, c'est une prostituée. Et Dieu, le Dieu d'Israël, compare mon peuple à une prostituée. Et si le Dieu d'Israël compare mon peuple à une prostituée, c'est parce que mon peuple, mon pays, ma nation, s'est prostitué. Ils sont prostitués au péché. Il n'y a pas que des gens qui prient en Israël, mais on a des drag queens, on a des gens d'une autre obédience, un peu de l'autre bord, je ne dis pas le nom, sinon on va me mettre au tribunal ici. On a des gens qui sont dans les braquages, dans les vols. Je vais en prison visiter des gens en Israël, les prisons sont pleines. Et aujourd'hui, chataim en hébreu, qui veut dire péché, signifie exactement la même chose en hébreu que dans le grec. Ça signifie rater la cible. Il y a des gens qui ratent la cible en Israël. Il y a des gens dans le péché. Et si j'aime ce peuple, je ne suis pas idolâtre au point de leur dire, n'allez pas leur prêcher le message qui sauve, le message qui délivre. Et nous sommes idolâtres, c'est Israël, ils sont au-dessus de nous, c'est vrai, par l'élection. Et ils ont reçu une élection particulière, c'est un fait. Et je ne sais plus qui je suis ce matin. Parce que d'un côté, je suis dans cette élection, et de l'autre, je suis aussi comme un peu l'apôtre Paul. Je suis des fois pas bien compris par les croyants, Yeshua, par les chrétiens. Et puis quand je me retrouve avec mes compatriotes, ils ne me comprennent pas non plus. Alors je suis entre le marteau et l'enclume. Et ce matin, comme Moïse, je dis, qui suis-je? Qui je suis? Qui je suis? Eh bien, je suis un enfant de Dieu. Et j'aimerais dire aux idolâtres d'Israël ce matin qu'ils nous causent du tort à nous. Ils causent du tort. Il faut de la sagesse et de l'intelligence. On est agressif. On est agressif des fois. On est tellement convaincu qu'on en oublie le discernement. Et là, on est tellement idolâtre d'Israël qu'on commet des erreurs et on sème dans le cœur des nations la haine contre nous. C'est contre nous que vous semez la haine. Après, on arrive devant les gens des nations, ouais, vous, israélomania, politique. Moi, je suis apolitique. Je préfère laisser le Seigneur travailler mon cœur. Et moi, ce matin, je le dis de la chair, j'aime les Arabes. J'aime les Arabes. Il y a des gens, ils sont tellement idolâtres d'Israël qu'ils ont la haine des Arabes. Mais moi, j'aime les Arabes. Et je veux le salut des Arabes. Je travaille avec les Arabes, alléluia. J'ai un frère arabe dans ma communauté et je le bénis au nom de Jésus. Il y a des gens idolâtres qui nous causent du tort. Il y a des gens qui boycottent nos manifestations parce qu'ils ont l'impression que dans nos meetings, on fait de la politique. On travaille pour le Likoud ou pour Miflagat Avoda, la gauche ou la droite, j'en sais rien. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Hein. Moi, je suis là pour prêcher le message. Et comment tu peux venir prendre la Sainte-Seine si tu as la haine contre un arabe? Ne viens pas. Hein. J'ai demandé de prêcher avant parce que je ne suis pas d'accord qu'on vienne prendre la Sainte-Seine si on a la haine contre un voyageur ou contre un arabe ou contre un juif. Hein. Ne viens pas si tu as la haine. Hein. Quand j'arrive en vacances en France, comme je suis à pied avec mes 4 enfants, c'est un frère arabe qui m'a offert une voiture. Je vous le dis comme ça. C'est un frère arabe qui m'a béni. Je ne marche plus à pied. Il m'a offert une voiture. Bon, ce n'est pas une voiture neuve, hein. Mais c'est une voiture quand même. Je me déplace avec. Hein. Elle marche bien, elle est bénie cette voiture, parce que c'est un cadeau qui vient du cœur. Et quand il vient chez moi, je le reçois, il n'y a aucun problème. Il est venu chez moi, il reste chez moi, il vient quand il veut chez moi. Ma sœur qui joue avec nous au piano, elle est d'origine algérienne, elle joue dans le groupe, elle est venue en Israël, elle va revenir. Et je pense qu'elle va revenir des dizaines de fois. Hein. Et moi je l'aime, hein, c'est ma sœur. Je suis tellement pas idolâtre de mon peuple, parce que je vois comment mon peuple vit et dans quelle situation spirituelle il se trouve. Et ce matin, moi j'en ai que faire des associations. Je vide mon sac, hein, puis après je m'en vais. Moi, j'en ai que faire des associations missionnaires qui viennent en Israël pour faire des fois des dons à l'État d'Israël pour la sécurité des autobus, par exemple. Même avec la sécurité dans l'autobus, quand ils sautent, ceux qui meurent, ils vont en enfer. Hein. Mais si on aime Israël, on mobilise sa force et ses dons pour l'évangélisation des Juifs. Pas pour des associations qui ont signé en Israël un protocole comme quoi ils ne feraient pas de prosélytisme si on les maintenait en place dans le pays. Parce qu'il y a des associations missionnaires qui ont signé des papiers avec l'État d'Israël comme quoi ils s'engageaient à ne pas faire de prosélytisme si, à l'inverse de cela, s'ils ne font pas de prosélytisme, on leur donne tous les visas. Et ils ont des organisations tentaculaires, ils ramassent des millions de dollars pour donner à l'État d'Israël. Au laïc. C'est comme si tu donnais au resto du cœur alors que ta vision c'est le royaume de Dieu. J'en ai que faire moi de ces associations. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est le salut d'Israël. Et si on veut le salut d'Israël, il faut concentrer nos forces et qu'elles soient spirituelles dans la prière, physique et matérielle, dans les œuvres qui travaillent pour le salut des Juifs. Le salut des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais maintenant par le travail des nations. Le salut des Juifs est possible par le travail des nations. Il faut encourager l'évangélisation. Nous, en Israël, on prend le groupe à Avat Sion, c'est vrai ou non? Et on s'est retrouvé dans une ville hyper dangereuse, là. On avait tous les espions de la création devant les portes. Et on a chanté, on a chanté, on a chanté, on a chanté. On avait des nouveaux qui venaient. On a donné des invitations. On a chanté en hébreu. On a chanté en hébreu. On a fait un message bien messianique concernant le salut pour le juif. Et là, on avait des nouveaux qui venaient, des juifs qui s'ouvraient. On a eu des contacts. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des juifs d'abord. Des juifs d'abord. Vous pouvez même répéter et envoyer la cassette de ma prédication à ces organismes missionnaires, parce que ce que je dis sur l'estrade, je l'aurais dit en face. C'est dur, hein, ce que je dis. Hein. Tu aimes les Juifs? Tu aimes Israël? Alors tu veux qu'ils soient sauvés. Tu travailles pour le salut de ce peuple. Donc c'est pourquoi, voici, je veux la séduire et la conduire au désert. Pourquoi la séduire? Parce qu'il s'agit du châtiment et du rétablissement d'Israël qui est comparé à cette femme d'Osée qui est une prostituée. Ce n'est pas étonnant que ce soit ce prophète qui parle et qui dit aussi, regardez ce qu'il dit. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ouais, mais attends. En Israël, quand ma femme, elle parle de son mari, elle dit Baali. Baali, Baal, le dieu des Cananéens, le maître. Il y a des gens qui pensent que le mari en Israël, c'est le Baal. Hein? Il a tous les droits. Non! Dieu a fait de ma femme une aide comme mon vis-à-vis, semblable à moi. C'est le reflet de ce que je suis dans ma glace. On est égaux. Il n'y a pas de différence. Et je suis son Baali dans le jargon israélien, dans le langage, c'est vrai. Mais Dieu dit, et il compare Israël, il dit en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Mon mari, c'est le mot Ishi qui est employé. C'est pas la même chose. Ishi, mon mari. Et ensuite, il dira, tu ne m'appelleras plus mon maître, Baali. Et ça, c'est important parce que nous avons le Dieu de la loi et le Dieu de la grâce. Alléluia. Et le Dieu de la grâce, c'est de savoir que Yeshua, eh bien, il t'appelle à toi, la Keïla, le corps de Yeshua, l'église. Appelle comme tu veux ce matin. Eh bien, il t'appelle exactement mon mari dans la notion du mot Ishi, non pas de Baali. Nous n'avons pas un Dieu qui descend pour nous punir, mais nous avons un Dieu rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Et il aime l'église, il aime le corps de Yeshua, il aime le Keilot, et il veut le bien de son corps, parce qu'elle est son épouse, et lui il est l'époux, il revient bientôt. Et je crois que les Keilot qui seront bénis, les assemblées qui seront bénies, seront ces assemblées qui vont considérer l'importance de ne pas abandonner nos frères au loin là-bas, en Israël, mais se tenir dans la prière, et se tenir dans l'intercession, afin que là-bas au loin, eh bien d'autres rencontrent le Dieu de la grâce. Je continue ? Bon, je continue alors. La cabane de la souka, la cabane, le tabernacle, le mishkan, la tente, appelle ça comme tu veux, lieu d'habitation temporaire. En Israël, quand on construit la cabane, on la construit pour une semaine et c'est temporaire. Et la Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. En tant que juif, c'est Brassens qui chantait le juif. Moustaki? Voilà, ben lui il est juif, hein. Ça se voit, hein. De profil surtout. C'est Moustaki qui chantait le juif errant. Bon, nous on est un peu des juifs errants, hein. Moi je suis un juif errant. Bon, depuis 50 ans on a retrouvé l'état d'Israël, donc je suis un peu moins errant. Mais on est tous des errants ici. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais on est même, une fois qu'on a reçu la révélation de Yeshua, on est des Yehudim Anoded. Des juifs errants. On est des croyants errants. Parce que nous n'espérons rien pour ici-bas. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez ici-bas? Regardez mes amis voyageurs, ils ont des caravanes. Quand ils veulent louer le Seigneur, ils montent la tente. Aujourd'hui, elle est ici, demain, elle est ailleurs. Nous sommes comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et notre espérance, pour nous, elle se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 16, où nous espérons une patrie qui est meilleure. Aujourd'hui, on a un petit département comme la Bretagne, on a toutes les nations contre nous, mais où vont-ils nous mettre, à nous les Juifs errants? Sous des tentes, on connaît. Une semaine par an, on va sous la tente, on est déjà en forme, on est déjà conditionné pour aller sous la tente. Hein, on est des juifs errants. Certains sont partis à Auschwitz chez les voyageurs. Mais moi, la sœur de mon grand-père, elle est partie à Auschwitz et il a élevé les enfants de sa sœur avec son beau-frère. Ils sont morts. On est des juifs errants. On est des gens que l'on remet constamment en question. Le peuple hébreu, Ivrim, de au vert, celui qui passe, doit être un peuple qui doit continuer de passer. Je suis le passant qui ne fait que passer. Je passe. Ai-je une patrie? Ai-je un jeune toit, une maison? T'en as pas besoin, t'es un juif errant. Continue ta route, tu es celui qui passe. Over. Je passe. On est tout le temps en train de remettre en question l'héritage que Dieu a donné à Israël, alors que dans le livre de la Genèse, il est dit, et c'est Dieu qui s'adresse à Jacob en ces termes, en lui disant, ce pays est un pays que je donne à toi et à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à perpétuité. Abraham, Isaac, et comme je suis fair play, Ismaël, Jacob. Abraham, Isaac, Ismaël, je suis fair play, hein, Jacob. Dieu dit à Jacob, ce pays je le donne à toi et à ta postérité après toi pour qu'elle possède à perpétuité. Qu'est-ce que vous voulez remettre en question? Lisez vos Bibles au lieu de regarder Antenne 2 et TF1. Est-ce que nous reconnaissons que les 66 livres de la Bible sont inspirés? Qui reconnaît les 66 livres inspirés de la Bible? Alors, tout ce qui est écrit, c'est pour nous. N'essaie pas spirituellement de déchirer quelques pages. Ah ouais? Il y en a qui font, ah, mais oui. Il y a des gens qui, spirituellement, déchirent quelques pages. Celui qui passe, on est constamment remis en question. Par le moyen de l'incarnation, j'ai bientôt terminé, hein. Mais par le moyen de l'incarnation, Yeshua a habité, en grec littéralement eskenozen, dans un tabernacle ou sous une tente parmi nous. Donc Yeshua lui-même a habité dans un tabernacle ou sous une tente. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est littéralement en grec, la parole est venue mishkané. Elle est venue tabernacler au milieu de nous. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu est venu tabernacler au milieu de son peuple. Le tabernacle était placé de telle sorte que chacune des tribus était à la même distance. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est vrai pour la bénédiction de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais la bénédiction, elle est plantée au milieu du chapiteau. Elle est plantée au-dessus de chacune de nos têtes. Elle est pour chacun d'entre nous. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, le Seigneur, il a un plan pour ta vie. Et il veut descendre sur toi, parce que Dieu ne fait exception de personne. Il veut la bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. J'arrive dans une prison, visiter un voyageur. Bon, il avait fait un peu le narvalo. Un soir où il était mort pilote, il a tiré un sac. Et là, quand il a tiré le sac, on l'a arrêté. Et il est monté en prison. Et il me dit, frère, tu peux pas venir me visiter? Bon, je serai ton frère quand t'arrêteras tes erreurs là, hein, tes petits. Bon, je vais le visiter, puis je commence à entretenir sur la foi, et puis je commence à prier pour lui, il tombe à genoux. Et il se met à pleurer sous l'onction de l'esprit. Et moi, quand je le vois comme ça, je dis, mais qu'est-ce que tu fais debout? Mets-toi à genoux avec lui. Et je me mets à genoux avec lui, je prie. Et dans la même cellule, il y avait un homme qui était un grand mafieux, très connu. Quand il ouvrait la bouche, les mouches volaient. C'était un grand costaud, et c'était un faux monnayeur, il avait pris 2 balles dans le ventre, il lui en restait encore une, et il dessinait sur sa table pendant que j'étais en train de prier avec le petit gitan espagnol, là on priait au nom de Jésus, et on y mettait tout notre cœur, et quand j'ai ouvert les yeux, le grand costaud, là, le grand mafieux, il était à genoux avec le petit espagnol, il pleurait aussi. Alléluia! Alors je vais vous dire pourquoi ça m'arrangeait qu'il soit touché ce grand gaillard là. Parce qu'ils venaient tous dans le culte à la prison pour parler entre eux. Et pendant le culte, c'était le chouk à Marrakech ou à Jérusalem. Et quand il est arrivé, lui, il se tournait et leur dit, maintenant, je veux entendre que des prières ou chanter. Je veux plus rien entendre, que des prières et des chants. Et on a eu un ordre dans le culte et d'autres se sont donnés au Seigneur. Et le Seigneur, il est capable de sauver même le faux monnayeur, le tueur, le braqueur, il est faux monnayeur, il est capable de sauver qui que ce soit ce matin. Même celui qui n'aime pas les juifs et les arabes. Hein. Ah, il aime les gitans, le Seigneur. Je ne sais pas te dire de quelle tribu tu es, mon frère, mais il t'aime. Donc le Seigneur a habité. Voilà pourquoi il nous faut garder une perspective éternelle. Nous l'avons entendu dire Certains qui accusaient Jésus, Yeshua, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Yeshua n'a jamais dit, je détruirai ce temple. Mais il a dit, détruisez ce temple. Le temple a été détruit à cause du péché du peuple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, moi, je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Nous sommes une habitation de Dieu. La Bible dit, nous sommes une habitation de Dieu. Et quand on parle d'habitation de Dieu, on a cette expression aussi en hébreu qui revient, qui nous rappelle que, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes aussi une habitation de Dieu en esprit. Et en hébreu, c'est le mot Mishkan qui revient, c'est le mot tabernacle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ce matin, j'ai devant moi des soukottes vivantes. J'ai devant moi des cabanes vivantes. J'ai devant moi des gens qui déambulent autour de moi et qui sont des temples vivants. Des habitations de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit ce matin? Alors pourquoi tu continues à fumer? Pourquoi tu continues à boire? Pourquoi tu continues à te souiller? Pourquoi tu continues à critiquer? La langue est un membre sans eau qui brise les eaux. Pourquoi tu continues à semer le feu? Pourquoi tu continues à être méchant? Pourquoi tu continues à être raciste? Pourquoi tu continues à calomnier, à faire l'inverse de ce que l'on doit faire dans la maison de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui est pur, saint, irrépréhensible, et il veut que nous soyons purs, saints, irrépréhensibles devant lui. Alléluia! Laissons le Saint-Esprit descendre sur nous et nettoyer en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Après, tu vas venir ici, librement, ou alors on va venir t'apporter les emblèmes que nous rappelle la Sainte-Seine. Paul fixait les yeux non pas sur un état présent, mais sur celui à venir. La fête de Soukhot, c'est aussi la fête du royaume de Dieu. Alléluia. C'est aussi la fête de ce qui va se passer dans l'au-delà, non pas sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. En tant que juif errant, Ivrit, Ivrim, over, celui qui passe, celui qui habite de l'autre bord, et en tant que celui qui dit « je suis le passant qui ne fait que passer », Dieu m'a ramené dans ce pays où nous avons toutes les pressions internationales, mais en tant que juif d'origine pharisien, parce que mon grand-père prêchait la résurrection des morts, je crois en l'au-delà. Et je crois que le temple que Dieu est en train de me préparer est autrement plus beau que celui qui existe qui a existé sur la terre. Et il est autrement plus beau. Grâce à cette perspective, Paul pouvait être plein de confiance. 2 Corinthiens 5. Encouragé, 2 Corinthiens 4. Même du temps de sa mortalité. L'énoncé, en demeurant dans ce corps, signifiant en grec « demeurer dans cette tente qui se détruit », Paul fixait les yeux non pas sur son état présent, mais sur celui à venir, non pas sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Et nous avons autour de nous des gens qui nous causent du tort encore, qui mettent la haine, et qui disent « le temple va être reconstruit maintenant ». Tant que le corps de Yeshua est sur la terre, le temple ne sera pas reconstruit. Sinon, je déchire toutes les épîtres aux Hébreux. Il y a des gens qui sont, des croyants évangéliques, qui sont derrière des associations pour la reconstruction du temple. Le temple sera reconstruit, mais après l'enlèvement du corps de Yeshua. Parce que sinon, le sacrifice de Yeshua ne sert plus de rien. Et on a tous ces fanatiques qui pensent que le temple sera immédiatement reconstruit. C'est mieux. Sinon, je vais passer un quart d'heure sur le mot là. Regardez, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, etc., je l'ai vu, mais littéralement, car nous savons que si notre maison terrestre de cette tente est déliée ou se dissout, parce que la Bible dit que la terre sera détruite par le feu, donc même le temple de Dieu sera dissout par le feu, celui qui sera sur la terre. Nous avons de la part de Dieu une demeure, une maison qui n'est pas faite par la main des hommes, éternelle dans les cieux. Et Paul fait allusion à cette maison que la main des hommes n'a pas construite. Car Yeshua n'est pas entré dans un sanctuaire, dans un mishkan, dans un tabernacle fait de main d'hommes en imitation du véritable. En imitation du véritable. Et le mot « imitation » dans le grec, concernant le sanctuaire terrestre qui a été fait comme une imitation, en grec, c'est le « antitype ». L'antitype. Car Moïse avait reçu l'ordre de faire tout selon le modèle qui était sur la montagne, qui veut dire en grec le modèle, le type. Et ce qui m'importe pour moi, c'est d'entrer dans le tabernacle, dans la Jérusalem céleste. Parce que mes péchés, moi, quand je veux qu'ils me soient pardonnés, j'invoque le nom du Seigneur et il pardonne mes péchés. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Oui, certes, le troisième temple sera reconstruit et nous connaissons le reste, puisque nous connaissons les livres eschatologiques. Mais ce qui est important pour moi, et ce pourquoi je me sanctifie, c'est pour être certain que Dieu me trouvera fidèle au jour de son avènement, et que je serai avec lui dans le temple, dans le ciel, dans la souka du ciel, alléluia. Je suis sous cette tente aujourd'hui, et je m'en réjouis, mais il me tarde d'être dans le temple qui est dans le ciel, et qui n'est pas fait de main d'homme, c'est le temple de Dieu, c'est la Jérusalem céleste, et juifs et non-juifs se réjouiront ensemble dans la Jérusalem céleste. Qui a l'assurance de la vie éternelle ce matin? Lève ta main. Qui a l'assurance de la vie éternelle? Eh bien là-haut nous serons, et c'est pourquoi nous pouvons dès maintenant acclamer le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Faisons une ovation, Seigneur. Il nous a sauvés. Alléluia. Rien ne peut être comparable avec le sanctuaire, le tabernacle qui nous attend dans le ciel, dans la Jérusalem. Et je vais conclure, c'est promis. Je conclue. On continue? Ouh là là, j'ai des terroristes de l'évangile ici, hein. Ouh là 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 là, on continue. La cabane, le tabernacle ou la souka, symbole du retour du Seigneur. Parce que quand on construit dans la souka le toit de la souka, le srar, ce qui fait de l'ombre, ça nous laisse la possibilité de voir le ciel. Donnez-vous toujours la possibilité de voir le ciel. Donnez-vous toujours la possibilité de voir le ciel. De la même manière qu'il s'en est allé, de la même manière, il reviendra. Nous sommes des gens qui avons la tikva en nous. De la tikva, de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Regardons au ciel. Est-ce que vous regardez au ciel ce matin? Ou est-ce que vous regardez à vos factures de téléphone, vos problèmes familiaux, vos problèmes de rhumatisme, vos problèmes de dos? Vous savez qui a des problèmes de dos ici? Je lève ma main. J'étais bloqué, tordu, là, deux frères voyageurs, pasteurs sont venus prier pour moi avec le frère Alexandre, j'ai été redressé instantanément. C'est pas ça qui va me voler la joie. C'est pas un mal au dos qui va m'empêcher de regarder au ciel. C'est pas une migraine qui va m'empêcher de regarder au ciel. C'est pas le chômage qui va m'empêcher de regarder au ciel. C'est pas les puissances de l'enfer qui vont m'empêcher de regarder au ciel. Mais nous voulons tourner nos regards vers le ciel, alléluia. Est-ce que vous attendez le Seigneur? Est-ce que vous attendez le Seigneur? Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Yeshua Yavo, Jésus revient. Est-ce que vous l'attendez? Alors pourquoi vous ne priez pas pour son retour? J'entends jamais des gens qui disent: Seigneur, on veut hâter ton retour. Jamais j'entends. Non, parce qu'on est trop bien ici, hein. On a du bon pain, la bonne baguette. Il y a du bon camembert, hein. Il est tellement bon qu'il m'a parlé toute la nuit. Il y a du bon vin. Il y a du soleil. Enfin, dans le sud, parce que vous avez entendu l'accent. Hein. Ici, il y a de l'humidité, mais on est bien aussi. Hein. Il y a un peu d'humidité ici. Hey, je ne mens pas, n'est-ce pas? Il y a un peu d'humidité. mais il y a la présence du Saint-Esprit. Hein, malgré l'humidité, c'est pas l'humidité qui va nous empêcher de regarder au ciel, alléluia. Alors quand je suis dans la soukha, je me couche, et quand je me couche, je vois le ciel, et je vois les étoiles. Et là, je me prends pour Abraham qui me dit, vois-tu mon enfant, tu vois les étoiles dans le ciel. Eh bien, dans le ciel, vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel, alléluia, aussi nombreux que le sable de la mer. Et je dis à toutes ces pseudo-relations avec Dieu qui ne mènent nulle part, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, que le nom de Yeshua, Mashiach, El Shemacher, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, et pour nous compter nombreux comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Eh bien, c'est la personne de Jésus, alléluia, oui. Qui t'empêche de regarder au ciel ce matin? Qui t'empêche de regarder au ciel? Regarde au ciel. C'est du ciel que nous viennent toutes les bénédictions. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alléluia. Toutes les tribus de la terre, pas toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus de la terre, alléluia. Toutes les tribus au Congo, alléluia. Toutes les tribus au Togo, alléluia. Toutes les tribus en Côte d'Ivoire, alléluia. Les animistes avec les masques, les musulmans, et ceux qui sont dans la capitale, les croyants, tous, eh bien, reconnaîtront celui, eh bien, qui s'est donné pour chacun d'eux. Yeshua Mashiach, le Fils de l'homme, qui va paraître dans le ciel.